Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. L'interview du jour se fera en compagnie de Jean-Claude Bondaz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la FCPE 26.
Oui.
Et nous allons parler aujourd'hui un petit peu de, des réformes scolaires, de l'éducation nationale, des rythmes scolaires,
oui,
notamment. C'est le grand débat du moment.
Cette saison, ouais.
Alors, avant de commencer, peut-être qu'on peut dire un petit peu aux auditeurs qu'est-ce que la FCPE ?
La FCPE, c'est la première fédération de parents en France. C'est aussi la première fédération sur la Drôme.
De parents d'élèves, donc.
Oui, hein. De parents d'élèves, oui. Et donc, elle regroupe des parents d'élèves des écoles, des collèges et des lycées. Et donc, pour défendre certaines valeurs qui sont la gratuité, qui sont l'égalité, qui sont le handicap et la place de l'enfant en difficulté dans l'école. Voilà, donc on se réunit au niveau local, par exemple à Die, on a des conseils locaux, mais on se réunit aussi au niveau départemental et au niveau national et on essaye de faire évoluer l'école dans l'intérêt des enfants.
Vous avez un concurrent direct qu'on va citer quand même là maintenant, qui s'appelle la PEP et qu'on connaît aussi pour ça.
Oui, tout à fait.
Ces deux entités sont souvent considérées par les personnes lambda comme étant des syndicats de défense un petit peu. Syndicat, peut-être le mot est un peu trop fort, mais justement de défense d'une certaine manière de faire l'école, avec pour autant deux visions complètement différentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la vôtre ?
On n'est pas syndicat, on n'est pas parti politique, on est vraiment une fédération de parents. On réunit des parents qui ont effectivement, par contre, nous, ce sur quoi on insiste, c'est qu'on a des valeurs et que ces valeurs, on les revendique. Donc la gratuité de l'école laïque et républicaine, voilà, on défend la place de tous les élèves, et notamment des élèves en difficulté ou des élèves handicapés. On a des principes d'égalité. Et voilà, donc nous, on a des principes forts, et après, je ne parlerai pas pour la PEP, hein, mais nous, on revendique cette idée d'une école qui a des valeurs et des parents qui défendent ces valeurs au sein de l'école, quoi.
Et donc ça se manifeste comment dans votre travail quotidien ?
Ça se manifeste sur plusieurs niveaux. Au niveau local, les fédérations de parents et les parents élus, par exemple, dans le second degré au collège ou au lycée, participent au conseil d'administration des collèges et des lycées. Donc oui, ils sont force de proposition et aussi ils contrôlent et ils votent les budgets. La DGH, qui est la dotation globale horaire, qui est... si vous voulez, pour être simple, la distribution des heures en fonction des professeurs, en fonction des matières. Au niveau départemental, nous, on a un rôle beaucoup plus... on a aussi un rôle représentatif et nos interlocuteurs, c'est le département pour tout ce qui est transport, tout ce qui est locaux, les communes quand il s'agit des écoles et puis aussi l'État avec le préfet et puis l'inspection académique et le rectorat. Et ensuite, au niveau national, on a l'échelon supérieur qui, lui, a pour interlocuteur essentiellement les ministères. Notamment sur les rythmes scolaires, il y a eu une très grande concertation au niveau national. C'est la FCPE nationale qui a participé à cette concertation. Et cette concertation, il y a eu à peu près une réunion tous les mois. Donc on a pu porter les paroles de la FCPE et les paroles des parents au sein de ces concertations.
Alors, on va revenir sur cette concertation précise autour des rythmes scolaires. Mais ce que je voulais qu'on comprenne, c'est est-ce que la FCPE est force de proposition, peut créer des nouvelles... susciter des concertations, ou est-ce que vous êtes juste à répondre ?
Non, c'est là où je dis, nous, on a des valeurs à défendre, notamment sur le rythme scolaire. La FCPE porte depuis des années, on n'a pas attendu la réforme des rythmes scolaires qui ont été proposées cette année. La FCPE propose et revendique depuis des années un allègement des rythmes scolaires. Nous, c'est clair que la FCPE demandait 5 heures par semaine, pas plus, donc on n'est pas encore arrivé à ça, c'est-à-dire que la proposition n'a pas été assez convaincante puisqu'on sera plutôt autour des 5h15 par semaine. Mais on revendique aussi un travail sur le planning annuel, c'est-à-dire revoir entièrement le calendrier. On défend la gratuité et aujourd'hui la gratuité, elle n'est pas toujours assurée et il y a des biais qui sont... détournée pour faire payer les familles, gratuité au sein de l'école, mais aussi gratuité dans tout ce qui est en dehors de l'école, transport scolaire, cantine, enfin, garderie, enfin tout ça, c'est des valeurs qu'on porte et que voilà, qui sont défendues à chaque niveau, au niveau local, au niveau départemental et au niveau national. Donc oui, on est force de proposition. On a beaucoup de revendications qu'on essaie de défendre, qui ne sont pas toujours entendues, mais qui petit à petit, la réforme des rythmes scolaires le prouve, même si on n'est pas encore arrivé sur ce chemin du rythme scolaire, mais ça prouve que nos revendications, et à force de parler et de rencontrer des gens qui ont du pouvoir, petit à petit, on arrive à faire évoluer les dossiers. Quoi.
Alors, est-ce que vous vous retrouvez en opposition, par exemple, avec l'enseignement privé, avec différentes orientations de l'État, justement, qui favorisent un petit peu la non-gratuité, justement, de l'école ?
C'est une de nos valeurs, c'est-à-dire que, à nos yeux, et aux miens particulièrement, l'école doit être un service public, et comme tout service public, il doit être gratuit, et comme tout service public, il n'est pas délégable, donc libre aux familles qu'ils souhaitent, pour des raisons X, notamment confessionnelles ou X et Y, de choisir un autre système, mais nous pensons que les moyens qui sont les moyens de l'État doivent aller à l'école publique.
À ce moment-là, pas de subvention. Vous êtes libre de choisir. Mais
notamment, depuis des années, la FCPE aussi se bat contre la loi Carl qui permet aux communes de financer l'école privée. Quoi. Nous, pour nous, c'est un choix qui dépend des familles, mais ce n'est pas à l'État d'accompagner les familles dans ce choix-là.
Bon, voilà, c'était pour qu'on fasse un petit aperçu comme ça de la FCPE et donc de vos actions quand même militantes, même si vous n'êtes pas une organisation politique.
Ah, on peut être militant et pas politique.
Tout à fait. C'était pour me rattraper du mot syndicat, là. J'étais très mauvais. Concentrons-nous donc sur cette réforme des rythmes scolaires. Quel a été votre travail? Quelles sont vos propositions?
Comme je vous l'ai dit, le travail, il a été, sur ce dossier-là, complètement mené au niveau national, que ce soit avec les syndicats d'enseignants, que ce soit avec les fédérations de parents, FCPE, mais aussi PEP, ou que ce soit avec les associations qui tournent autour de l'éducation nationale, comme la FOL, la Fédération des œuvres laïques, les DDEN, qui sont les délégués de l'éducation nationale. Enfin bon, voilà. Donc la concertation, elle a eu lieu au niveau national. Elle s'est résumée à environ une réunion tous les mois.
Peut-on donner le point de départ ?
Je le répète, depuis des années, la FCPE prône un rythme adapté aux enfants et donc en tenant compte notamment des études des chronobiologistes et de l'Académie de médecine, on a estimé que la journée des enfants au niveau scolaire ne devrait pas dépasser 5 heures. Cette problématique des rythmes scolaires, bon, il ne faut pas l'avoir que sur la semaine, il faut aussi l'avoir sur la totalité des calendriers, parce qu'on milite aussi pour un rythme, et là aussi, ce n'est pas un rythme qu'on a sorti de notre chapeau, c'est aussi un rythme qui a été étudié par des médecins, des chronobiologistes, d'avoir un rythme régulier de 2 semaines de vacances pour 7 semaines d'école. Donc, depuis des années, la FCPE revendique ces rythmes-là adaptés aux enfants. Alors, c'est vrai que la révision des rythmes scolaires faisait partie des promesses du candidat Hollande. Sur ce niveau-là, l'école avait été assez mal servie précédemment, puisque avec la réforme d'Arcos qui avait supprimé le samedi matin, supprimé 2 heures d'école par semaine, puisqu'avant on était à 26, on est passé à 24. On a supprimé donc 2 heures, on a alourdi les programmes et en plus on a tout regroupé sur 4 jours. On a vu assez rapidement que les résultats au niveau des études internationales sur les résultats n'étaient pas bon pour les écoliers français, et les enseignants faisaient remonter depuis peu de temps, mais en 2 ans, ça s'est vraiment détérioré, qu'il y avait de plus en plus d'enfants qui avaient des difficultés à suivre, en fait. Donc, on avait de moins en moins d'enfants moyens. Ceux qui allaient bien continuaient à aller bien. Par contre, les enfants qui avaient des résultats tout à fait moyens, normaux, quoi, on va dire, ont beaucoup plus de mal à suivre. Et donc, l'éducation nationale, par l'intermédiaire de ses services internes et par l'intermédiaire des évaluations qu'elle avait faites, ça se voyait. Donc, tout amenait objectivement à dire, c'est pas possible d'avoir des rythmes scolaires aussi lourds qui avaient été en plus alourdis depuis donc la réforme d'Arcos. Quoi.
Quand on sait que d'Arcos justement a permis ce type de réforme assez rapidement, pourquoi est-ce que l'État ne fait pas aujourd'hui une réforme inverse ?
Bon, moi je ne suis pas représentant du
non,
ministre,
bien sûr,
ni du
mais
préfet.
C'est simplement pour que maintenant on comprenne aussi votre rôle là dans cette nouvelle réflexion.
C'est complexe parce que effectivement en supprimant le samedi matin, on a aussi les familles familles se sont réorganisées. Et donc, le rythme de vie des familles a été... s'est adapté et les parents, on le sait,
son samedi matin.
On apprécie son samedi matin. Et c'est vrai que les sondages, quand le ministère a voulu commencer à travailler sur la réforme du rythme scolaire, les sondages montraient que les parents étaient tout à favorables au maintien du week-end. Et que parallèlement, le mercredi, il y a tout le milieu associatif qui travaille, etc., etc. Donc, c'était pas, voilà, c'est pas facile. Et il faut encore, je pense, convaincre. D'abord, il faut convaincre les parents que c'est dans l'intérêt des enfants. Moi, je crois que effectivement, la vie de famille a un intérêt et l'école fait partie de la vie des enfants, mais il y a une autre vie après. Mais malgré tout, je crois qu'il manque beaucoup d'informations et de convictions pour convaincre les parents que c'est cette réforme, elle doit être faite dans l'intérêt en premier lieu des enfants et peut-être pas toujours dans l'intérêt des familles. Et puis, je pense aussi que ce qui pose problème dans cette réforme particulière, c'est que le ministère a été un peu frileux, voire un manque de courage. N'a pas voulu prendre tout de face, notamment sur les calendriers scolaires, parce qu'effectivement... l'industrie touristique était peu favorable à la suppression de vacances scolaires. Voilà. Ils n'ont pas su imposer, ils sont un peu reposés et sur les municipalités pour instaurer un rythme particulier local. Donc on a une réforme qui est en demi-mesure, qui est mieux que ce qu'il y avait l'année dernière. Enfin, je veux dire, si les communes passent en 2013 ou en 2014, les enfants seront quand même dans de meilleures conditions que des conditions actuelles. Donc c'est pour ça que nous, on défend cette réforme. Avec plein de nuances, mais on la défend quand même. Parce que c'est l'intérêt de l'enfant d'avoir des semaines d'école et des journées d'école moins lourdes.
Vous nous avez parlé de l'activité touristique qui se plaindrait, mais bon, on va les laisser de côté. Mmh. Les parents, réellement, c'est quelque chose que vous sentez, presque cette opposition ne reviendra plus en arrière. C'est bien, c'est comme ça qu'on veut que ça se passe. Alors qu'à côté de ça, les parents seraient prêts à dire oui, il faut alléger, il faut arrêter les devoirs le soir, il faut arrêter plein de choses. Mais...
Ouais. Mais ceci dit, les devoirs le soir, les parents, ça dépend aussi, mais ça, on en
oui,
discutera.
Ça dépend aussi.
Ouais, ouais, il y a des parents qui veulent absolument du devoir. Mais pour ce qui est des rythmes scolaires, je pense qu'il y a je pense qu'il faut vraiment de la conviction et un manque d'information des parents. Pour information, on a fait le conseil local de Cré en primaire a fait une enquête auprès de tous les parents pour justement savoir s'ils étaient pour, enfin pas que, mais notamment il y avait une question sur le mercredi et le samedi et on leur demandait pourquoi. Et ce qui est bizarre, c'est que voilà, les familles pensent que deux jours de repos dans la semaine d'affilée sont préférables à un jour et demi ou Or, on sait, et quand je dis on sait, c'est pas moi, hein, c'est une fois de plus l'Académie de médecine, c'est les travaux qui ont été faits par Montagnier, par Testu au niveau de l'INSERM, donc on est sur un travail de chronobiologiste, que lors d'apprentissage, notamment les apprentissages fondamentaux que sont la lecture et le calcul, donc pour les petites classes, une rupture de deux jours complètes d'école, est néfaste à ces apprentissages. Donc, il faut avoir pratiquement un apprentissage quotidien. Donc, un jour, ça va, mais c'est pour les enfants, pour le processus cognitif des enfants, deux jours d'arrêt, c'est pas favorable. Ça, effectivement, les parents, on leur dit pas. Et donc, de bonne foi, ils pensent qu'il vaut mieux se reposer deux jours d'affilée plutôt qu'un jour ainsi, enfin un jour et demi et l'autre jour. Voilà. Après, moi, je dirais que bon, le samedi et le mercredi, c'est ce qui a été très, très porté au niveau médiatique. Mais bon, c'est peut-être pas non plus le point essentiel. Le point essentiel, c'est aussi de savoir ce qu'on fait. Puisque on va réduire le temps scolaire, qu'est-ce qu'on fait du temps scolaire qu'on a gagné et comment on organise le périscolaire au profit des enfants, quoi. Donc, ce que nous, on a pu remarquer, c'est à la fois le peu d'informations qu'ont les parents et puis à la fois le grand désir d'informations qu'ont les parents. C'est-à-dire que quand on organise des réunions, ils sont là et ils sont intéressés et ils peuvent écouter. Et le but, il n'est pas de les convaincre, de leur dire le samedi, c'est mieux que le mercredi. Mais c'est informez-vous pour ensuite choisir en fonction de l'intérêt. Après, à vous de choisir aussi l'intérêt de votre enfant ou l'intérêt de votre famille. Après tout, c'est... Bon, nous, on est sur l'intérêt de l'enfant. Il n'y a pas de mauvais choix, mais il faut les faire en conscience, quoi. Et je pense que ce travail de prise de décision en conscience, il doit être fait aussi par les enseignants. Et ce n'est pas toujours le cas non plus. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que la concertation n'a pas eu lieu au sein de l'institution, puisque ça a été fait au niveau national, et que les enseignants ne se sont pas saisis de cette problématique. Et donc, jusqu'à peu de temps, quand on leur posait la question, ils n'avaient pas d'avis particulier, quoi. Mmh. Donc, moi, je trouve ça un peu regrettable, un peu dommage. Et je pense que c'est de la concertation que peut naître aussi une dynamique. Et je pense que s'il y a un intérêt aussi dans cette réforme telle qu'elle est menée, avec tous ses défauts, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas des parents et des enseignants qui se disent « Tiens, il faut qu'on pense, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que mon gamin fait à l'école? Qu'est-ce que mes élèves font à l'école? Et comment favoriser le travail de l'école et de l'élève à l'école. Donc ça, c'est aussi un point qui me paraît positif.
Il faut qu'on pense ensemble, hein, parce que je
la
crois
concertation,
que les gens pensent, mais pas...
Non, mais tout à fait, la concertation. Ouais. Et je pense que là aussi, l'aspect local peut être super intéressant, parce que justement, il est plus facile de discuter entre parents d'une école et enseignants, entre services municipaux, que... au niveau rectorat ou au niveau national, où là, la discussion a lieu dans les ministères avec des gens qui sont moins au courant. Enfin bon. Mais aussi, l'intérêt de cette réforme, c'est qu'au niveau local, ça permet à chacun de se saisir de cette problématique et puis d'en discuter. Parce qu'effectivement, il faut concerter, parce que les parents ont des croyances, les enseignants ne sont pas toujours des parents, donc ont moins la connaissance d'une vie de famille, et qu'il faut confronter tout ça pour essayer que sorte quelque chose d'acceptable pour tout le monde, et toujours dans l'intérêt de l'enfant.
Et juste pour revenir un instant sur ces enseignants, c'est quand même étonnant qu'ils ne soient pas au courant des études dont vous nous parlez depuis le début. Donc ils doivent les connaître, ces rythmes scolaires.
Oui, tout à fait. Non, mais...
Ne pas avoir d'avis, c'est quand même un peu étonnant.
Je ne dis pas que tous les enseignants n'ont pas d'envie, parce que...
D'avis.
D'envie et d'avis, d'ailleurs.
C'est pas mal.
Mais non, je dis simplement qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation, nous on peut le voir en tant que fédération de parents, où l'enseignant a été très maltraité par l'institution, et où donc...
Et avec des parents qui s'engouffrent dedans aussi.
Et avec des parents qui s'engouffrent dedans, avec une grosse angoisse des parents par rapport à l'éducation, avec une grosse, comment dire, c'est pas une démotivation parce que les enseignants sont archi-motivés, mais ne se sentent plus soutenus par l'institution. Et donc traiter d'une problématique comme ça avec une relation qui était un peu délicate, c'était peut-être pas le meilleur moment non plus, mais y a-t-il un bon moment? Donc c'est vrai que ça s'est fait au niveau national, c'est vrai que peut-être qu'une concertation locale aurait été la bienvenue, parce que les enseignants ont aussi des choses à dire, mais ont un peu peur de les dire, et notamment de les dire, c'est vrai que il faut dépasser un peu la peur que certains enseignants ont par rapport aux parents, quoi. Mais c'est justement l'intérêt du local, c'est-à-dire qu'on se connaît mieux et qu'on peut peut-être mieux discuter et parler du parler vrai, c'est plutôt bien dans ce genre de sujet, parce que on a une obligation tous par rapport à nos gamins et au fait qu'ils puissent réussir leur scolarité au mieux.
C'est un peu cette fierté de parents, comment dire, même cette puissance en se disant oui, c'est quand même mon gamin, on m'oblige en plus à l'envoyer à l'école, alors j'ai envie de décider un peu quand même aussi de son avenir.
Oui, mais puis parce que je crois aussi que, c'est ce que je vous disais, on est beaucoup sur, que ce soit en tant que parent et aussi en tant qu'enseignant, on est sur des croyances. On croit que d'abord notre gamin est le modèle. Alors notre gamin est loin d'être modèle, on a tous des gamins uniques, heureusement. Et puis il y a un enjeu aujourd'hui, qui l'école est devenue un enjeu parce qu'on l'a beaucoup décrié, parce que je crois il y a eu un vrai travail de sape pendant 5 ans de l'institution. Et que ce travail de sape, il a beaucoup sapé la confiance qu'ont les parents dans l'éducation nationale. Et nous, en tant que fédération de parents, FCPE notamment, notre rôle aussi, c'est de ramener de la confiance et aussi de dire aux enseignants, on travaille dans le même sens, quoi. Ce que vous faites pour les élèves, on ne le critique pas, on l'accompagne. On peut des fois ne pas être d'accord sur certains sujets, mais on a conscience que vous, comme nous, notre seul objectif, c'est l'intérêt de l'enfant et qu'il vive au mieux sa scolarité, qu'il la vive lui. Et là aussi, les parents, des fois, rejouent leur scolarité à travers la scolarité de leurs enfants. Donc c'est bien aussi, c'est d'où l'intérêt des fédérations de parents, c'est d'amener aussi un peu plus de calme et d'être moins personnalisé, parce qu'effectivement, sur des sujets comme ça, le risque, il est aussi que la personnalisation de chaque famille, de chaque cas familial, entraîne une école qui est pas vivable quoi par les enseignants et qui est non plus pas vivable par les enfants parce que les enfants ils ont besoin aussi d'avoir des modèles, des cadres clairs et des cadres qui sont sécurisants pour eux pour apprendre et c'est pas toujours le cas non plus quoi.
Jean-Claude Bondaz, président de la FCPE pour la Drôme, sur cette fameuse réforme des rythmes scolaires, est-ce que vous pouvez la décrire un peu ? Vous nous avez dit aussi qu'elle avait des bons, des mauvais côtés, enfin telle qu'elle est à l'heure actuelle. On a bien compris que ce n'était pas celle que vous aviez proposée en tant qu'FCPE.
Non, mais maintenant on a celle-là, il faut qu'on fasse avec.
Alors allons-y.
Bon, je vais refaire les principes de base, comme ça on va faire du pédagogique et du didactique. Actuellement donc, on est sur 4 jours, c'est-à-dire 8 demi-journées qui doivent faire 3 heures. Donc les enfants aujourd'hui travaillent 24 heures par semaine, d'accord ? Ils ont le mercredi. Et ensuite, après ces six heures d'école quotidienne, pour certains enfants, ils ont l'aide personnalisée qui représente une demi-heure ou trois quarts d'heure pour les enfants qui sont en difficulté. Donc l'aide personnalisée, c'est un travail en petit groupe avec l'enseignant, 3-4 élèves. Bon. Avec la nouvelle réforme, donc, on va passer de 8 demi-journées à 9 demi-journées et demie.
Vous avez dit 9 journées et demie.
Non, 9 demi-journées,
neuf
pardon.
9 demi-journées.
Excusez-moi.
Très bien.
9 demi-journées, voilà. On gagne une demi-journée en plus. Donc, qui par défaut sera le mercredi matin, mais qui peut, par dérogation de la direction académique, donc qui se trouve à Valence, se placer le samedi matin. C'est la directrice académique qui décidera, donc qui fixera ce jour, mais c'est sur proposition de la mairie et des conseils d'école. Les journées des enfants ne pourront pas dépasser 5h30 par jour. Avec la possibilité de descendre, puisqu'on est à 5h15 par jour maximum, si on tient compte des 9 semaines, des 9 demi-journées. Et les demi-journées ne pourront pas dépasser 3h30. Parallèlement, l'aide personnalisée sera remplacée, mais on intégrera donc dans ce temps une heure, ce qu'on appelle d'activités pédagogiques complémentaires, les APC, qui seront délivrées par les enseignants. Si on réduit le nombre d'heures par jour, malgré tout, l'État garantit aux familles que les enfants pourront aller à l'école jusqu'à 16h30. Pour assurer cette garantie jusqu'à 16h30, les communes seront obligées de mettre en place un temps périscolaire, donc qui sera l'équivalent de 3 quarts d'heure à une demi-heure par jour. Ce temps périscolaire, donc les enfants et les familles ne seront pas obligés d'y participer. C'est-à-dire que si une famille veut faire quitter l'école à son enfant à 15h30, elle le peut. Par contre, les municipalités seront obligées de proposer ce temps périscolaire jusqu'à 16h30. Il y aura donc sur ce temps périscolaire la possibilité de mettre en collaboration avec l'éducation nationale un projet éducatif territorial qui mettra en place des bases, qui permettra, je dirais, de proposer un temps périscolaire adapté sur des projets qui peut reposer sur le milieu associatif existant. Enfin, le périscolaire peut être autre chose qu'une garderie. Voilà. Voilà, en gros, les grosses bases. Donc, une demi-journée en plus, la garantie pour les familles d'avoir leur enfant gardé jusqu'à 16h30 et ne pas dépasser 5h30 par jour pour les enfants d'école.
À chaque fois, je me pose cette question quand on reparle des rythmes scolaires français, voire même de l'ensemble de notre système éducatif. Il y a plein de modèles européens tout autour. Est-ce que ça a été étudié un petit peu, je pense, au rythme scolaire allemand, italien ou scandinave ?
Non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en France, par rapport au niveau européen, aujourd'hui, on a 144 jours d'école aujourd'hui. Donc, avec 4 jours par semaine, 144 jours d'école par an. Ça fait partie du nombre d'heures le plus bas en Europe. La moyenne pour les pays de l'OCDE, c'est 187 jours. Et on a aussi parmi le nombre d'heures le plus important, puisqu'on est à plus de 840 heures d'école par an.
Donc, en fait, on arrive presque à faire le ratio.
Voilà, c'est-à-dire que non seulement on travaille peu, mais on travaille beaucoup. Voilà. Alors que, par exemple, en Finlande, on travaille aussi, on est assez proche des 140 jours, mais on travaille beaucoup moins en nombre d'heures. On a un tiers de moins en nombre d'heures à peu près. En Italie, on travaille plus. C'est un des pays qui travaille le plus. On est à, je crois, autour des 900 heures. Par contre, on a 200 jours d'école par an. Donc, on a effectivement ce ratio qui est plus adapté. Aujourd'hui, l'écolier français au niveau de l'OCDE est celui qui travaille le plus en rapport jour-heure, quoi. Et nos résultats ne sont pas bons. C'est-à-dire que si on compare aux tests PISA, qui sont les tests internationaux, on est dans la 25e ou 26e, je crois, 27e, selon les matières, puisqu'on évalue trois matières. Les résultats ne sont pas bons. Avec cette réforme, on ne va pas révolutionner l'affaire, puisqu'on va passer de 144 jours à 180, et la moyenne de l'OCDE est à 187. Hein. Donc, ce n'est pas non plus... voilà, on ne va pas révolutionner les choses, mais on va gagner un peu, et c'est toujours ça de prix, quoi.
Alors, qu'est-ce qui va être réellement bénéfique? C'est simplement le fait de perdre une demi-heure par jour qui devrait...
Non, c'est là où on atteint les limites du sujet.
Alors, allons-y avec les limites. Voilà.
C'est-à-dire que, bien évidemment, la réforme des rythmes scolaires ne peut être qu'une étape et qu'un élément. Il est évident qu'il faut aussi revoir le calendrier scolaire sur l'année, parce qu'on a des temps scolaires qui sont parfois beaucoup trop longs. Notamment,
donc là, ça n'a pas du tout été
revu. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Mm-hmm. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. C'est vrai que l'étape là qui a été faite est une étape facile pour le ministère, parce qu'elle ne coûte rien. Puisque toute l'activité périscolaire qui sera assumée par les municipalités, ce n'est pas du budget de l'État, ça ne nécessite pas la création de postes. Donc, c'est une réforme qui a été relativement, au niveau budget de l'État et moyenne de l'État, facile. Dès qu'on va commencer à toucher des sujets comme la difficulté scolaire, remettre des razèdes là où il n'y en a pas, retravailler aussi, et encore, l'école primaire, c'est effectivement un des points, mais il y a d'autres points noirs. C'est-à-dire que le collège aujourd'hui, les enfants de collège travaillent encore plus que les écoles du primaire. Et que là, si on veut travailler sur les rythmes scolaires du collège, il va falloir des moyens en professeurs, en heures. Et donc, ça va coûter à l'État. C'est-à-dire là, on nous a parlé de 60 000 postes. Ces 60 000 postes, on va en avoir besoin et ils vont vite passer si on décide de travailler sur les réformes des rythmes scolaires au collège. Donc voilà, ce n'est qu'une étape. C'est une étape qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est mieux que rien. Et ce que je dis, c'est que pour les communes qui passeront dès l'année prochaine ou celles qui passeront en 2014 donc sur ces nouveaux rythmes scolaires, ça sera toujours mieux que ce qu'il y a actuellement, où on a des enfants qui sont effectivement archi fatigués et qui, à l'arrivée des vacances ou même en week-end, ne sont plus en état, tout simplement, d'accueillir les apprentissages qu'on leur donne, quoi.
Et alors, cette notion des 7 semaines de travail pour 2 de vacances, si j'ai bien compris.
Ouais, c'est ça.
Alors là, ça, c'est pareil, c'est pas encore...
C'est très difficile, quoi. Non, mais on est là, on est sur un vrai lobby, quoi. C'est-à-dire que si on supprime...
Encore on parle que des vacances de février et des vacances d'été, là, ça va, il y en a encore plein d'autres.
Oui, mais c'est les deux grosses. C'est-à-dire qu'effectivement, les vacances de la Toussaint, on a cette année, on a récupéré 2 jours. Ça peut paraître pour les familles très peu, mais on s'aperçoit que vraiment, entre 10 jours et 15 jours, quand je dis on, c'est pas une fois de plus, on est sur des recherches scientifiques. Entre 10 jours d'arrêt et 15 jours d'arrêt, il y a une grosse différence pour les enfants. 2 semaines d'arrêt, c'est le minimum.
C'est le minimum.
10 jours, c'est pas assez.
C'est pas assez.
Voilà. Et notamment les vacances de la Toussaint, c'était pas assez, surtout qu'ils commençaient en septembre et qu'ils étaient à plus de 8 semaines. Donc il y a vraiment ça. On travaille sur les rythmes, il faut aussi travailler sur les contenus. Aujourd'hui, les contenus, les enseignants et les élèves, de primaire, c'est à peu près entre 15 et 17 matières à gérer, quoi, à apprendre. C'est énorme.
Donc, et quand on sait d'ailleurs que c'est plus du tout fait de la même manière.
Là aussi, la réforme d'Arcos a fait beaucoup de mal, puisque non seulement donc, on a supprimé 2 heures, on a alourdi les programmes, et en plus de les alourdir, on les a déplacés. C'est-à-dire que ce qu'on demandait à des enfants de CE1, maintenant les enfants de CP doivent l'apprendre. On a primarisé... la maternelle, c'est-à-dire que maintenant, en grande section, les enfants sont vraiment en apprentissage de la lecture et de l'écriture, et que malheureusement, nos enfants n'étant pas des machines, il y a un rythme là aussi biologique, c'est-à-dire que au niveau neurologique, les enfants ne sont pas aptes, enfin, pas tous les enfants, une fois de plus, ne sont pas aptes à acquérir ces notions. Donc il y a eu là aussi, il est clair que de toute façon, les 5 dernières années qui ont été passées n'ont pas été au profit de l'école et pas au profit des enfants, quoi.
Pourquoi est-ce que pendant 5 ans, on a torpillé cela? Quels étaient les objectifs?
Non, mais c'était absolument financier. Ça a permis de supprimer des dizaines de milliers de postes, quoi, tout simplement. De toute façon, on a toujours cette... Les enfants qui marchent continueront à marcher. Et les enfants, donc, des familles qui auront les moyens de faire marcher leurs enfants pourront toujours. Il ne faut pas oublier que le marché parallèle de l'éducation, que ce soit les écoles privées, mais aussi toutes les sociétés qui font du soutien scolaire, ça rapporte énormément d'argent. On est à au moins 1 milliard d'euros de bénéfices. La plus grande société de soutien scolaire, dont je ne citerai pas le nom, mais qui fait de la publicité sur les radios périphériques.
Sauf chez nous.
On a un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros. Quoi. Ouais. Donc,
il y a un vrai marché.
Voilà, il y a un vrai marché. Et donc, c'est aussi parfois bien de développer l'insécurité. Voilà. Quand les parents se sentent en insécurité, ils ont plus tendance à aller voir ailleurs aussi. Quoi. Donc c'est aussi un aspect très sournois.
On a parlé un tout petit peu en début de cette interview de l'école privée. J'aimerais avoir l'avis de le vôtre, de la FCPE, sur ces écoles qui sont en train de se développer de plus en plus. Je pense à Montessori, à différentes méthodes qui changent complètement justement les rythmes scolaires, les méthodes d'apprentissage et qui donc sont des structures privées puisque pas encore reconnues par l'éducation nationale. Comment est-ce que la FCPE voit ça ?
Alors je sais pas comment la FCPE voit, moi je vais parler. Alors pour moi là, ouais.
Le président.
Non, le parent d'abord.
Le parent d'abord.
Et puis le citoyen. Premièrement, que ce soit Freinet, que ce soit Montessori, ces gens-là étaient des gens qui travaillaient pour l'école publique au départ. Hein. Freinet était à Vence, Montessori était en Italie. Donc, je ne pense pas qu'ils avaient l'ambition de faire des écoles privées. Ensuite, qu'il y ait des expériences qui soient menées au niveau local, je pense que c'est tout à fait bien et tout à fait favorable. Et c'est ce qui fait évoluer l'école en général. Montessori, aujourd'hui, elle est appliquée, Freinet et Steiner et toutes
Steiner,
ces...
Ouais, voilà.
Et font partie aussi de la pratique pédagogique des enseignants de l'école publique. Ils ont tout pris, ils mélangent, ils utilisent un peu de Freinet, ils utilisent un peu de Montessori, ils utilisent un peu de Piaget, ils utilisent... Voilà. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'école publique et les enseignants qui pratiquent dans l'école publique pratiquent une école du siècle dernier. Il y a une vraie intégration des choses. Maintenant, qu'il y ait des expériences locales, et moi, je pense par exemple, c'est un peu plus loin de dit, mais aux Amanins, où il y a aussi une expérience pédagogique qui est menée. C'est toujours très intéressant. Je sais que les Amanins espèrent pouvoir intégrer l'éducation nationale, puisqu'aujourd'hui, ils sont privés. Moi, en tant que parent, et moi, en tant que citoyen, je trouve ces expériences intéressantes. Maintenant, je trouve que ma place, elle est au sein de l'école publique pour défendre et pour que ces méthodes soient adaptées au sein de l'école publique et soient disponibles à tous. Parce que l'expérimentation, c'est super, mais ça ne touche que les expérimentés, que les cobayes.
Ceux qui ont les moyens, d'ailleurs, de se faire expérimenter.
Ou ceux qui ont les moyens. Non, mais exactement. D'ailleurs. Ou ceux qui ont les moyens. Mais oui. Des fois, sur les Amanins, je ne crois pas que ce soit un problème de moyens. C'est vraiment du local, et tant mieux. Mais ces enfants-là, c'est 15 ou 20 gamins. Voilà. Ouais. Moi, je veux du Montessori, je veux du Freinet, je veux du tout, partout, pour tous les enfants. Et c'est pour ça que je me bats. Voilà. Pour moi, l'expérimentation est nécessaire. Après, il faut faire attention, car il y a aussi un risque de prosélytisme. Et c'est, voilà, c'est pour ça aussi que moi, mon gamin, il est dans le public et que j'essaye au mieux de défendre l'école publique, même si peut-être qu'elle n'a pas les moyens, même si... Mais en tout cas, on essaie de travailler ensemble pour leur donner les moyens aux enseignants, parce que je crois que les enseignants, eux, majoritairement, ce qui les intéresse, c'est de bien bosser et de faire évoluer les enfants dans la bonne direction. Quoi.
Et donc, éventuellement, d'aller vers ces méthodes. C'était un petit peu ça que je voulais entendre,
mais
savoir
je crois
si ces méthodes-là...
Mais je crois qu'ils y vont absolument. Voilà. Enfin, je veux dire, quand maintenant, on est sur un bac plus 5 avec un master éducation, ils étudient toutes ces pédagogies-là et elles sont intégrées. Alors après, évidemment, je pense que c'est pas marqué Freinet sur la porte, mais le Freinet ou le Montessori, il est intégré tous les jours. Quoi. Enfin, c'est peut-être pas un parent qu'il faut demander, ça serait peut-être un enseignant qu'il faudrait inviter. De toute façon, l'école française, elle s'est quand même, après la guerre, elle s'est construite grâce aux pédagogues. Hein. Je veux dire, Piaget, il était à l'origine de l'école française qu'on l'a étudiée. Et puis, je veux dire, on a des pédagogues aujourd'hui qui continuent à travailler et qui, au sein des institutions, au sein des universités, travaillent, étudient. Et on voit tous les jours des publications sur le travail et sur la pédagogie qui sortent. Donc, et les enseignants ont à leur disposition ces documents-là. Et je pense qu'ils les intègrent. Voilà, ils les appliquent sur le terrain.
Donc alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde est prêt, que c'est la base déjà de notre école, mais qu'en fait, on est face à un système financier qu'on connaît trop bien, qui torpille.
Il est évident qu'aujourd'hui, il y a un manque de moyens et qu'on a... Il y a aussi un manque... Il y a eu un manque de moyens, ça c'est certain, moyens humains essentiellement. Il y a une dévalorisation de l'école, et ça c'est l'institution qui en est responsable. Quand je parle institution, je parle les politiques qui représentaient cette institution.
Et le ministère.
Et le ministère, voilà. Il est évident aussi qu'on a un système scolaire qui est basé, parce que c'est un vieux système scolaire, sur l'excellence. Hein. On a des grandes écoles, on valorise la filière générale, parfois aux dépens de la filière professionnelle. Donc loin de dire que tout va bien, Madame la Marquise. Ce qui est évident, c'est que on peut revoir comme par exemple la Finlande l'a fait il y a longtemps, le système scolaire, mais que d'abord il faut du temps et qu'on ça sera pas la petite réforme qui fera changer tout le système. Et puis qu'il faut de la concertation. Mais je crois que les enseignants et je crois qu'une grande partie des parents, même si nous parents on est peut-être moins compétents. On a moins d'informations. On est compétent au niveau enfant, mais on est peut-être moins compétent au niveau pédagogique. Mmh. Ben, je pense que, voilà, une fois de plus, faut qu'on on peut tout mettre à plat. Mais pour mettre à plat, il faudra des moyens. Il faudra aussi du temps. Et il faudra donc aussi une ambiance sereine, une sérénité, qui est peut-être pas aujourd'hui, mais qui nécessitera que nous, parents, eux, enseignants, se posent des questions et peut-être aussi revoient leurs certitudes. On a tous des certitudes, ça c'est certain. Certaines sont bonnes, certaines, à mon avis, vont pas dans l'intérêt des enfants. Quoi.
Quels sont les prochains combats de la FCPE ? Continuer à appuyer sur ces rythmes scolaires et peut-être d'autres choses.
Alors, déjà, cette réforme, elle est loin d'être passée encore. Hein. Je ne sais pas si toutes les communes sont favorables. Aujourd'hui, il y a beaucoup de communes, notamment les petites communes rurales, qui sont opposés à cette réforme et qui ne l'appliqueront pas en 2013.
Oui, parce que je pensais à devoir payer cette personne. Si effectivement
absolument.
Ça ne fait pas un emploi pour l'éducation nationale, ça fera un emploi
c'est
pour
absolument, c'est, mais c'est absolument un des risques majeurs de cette réforme, c'est bien qu'il y ait une inégalité de traitement entre les communes qui auront soit les moyens, soit la volonté, parce qu'on peut aussi avoir les moyens et ne pas avoir la volonté, d'investir sur l'école, et des communes, notamment les communes rurales, qui peuvent aussi avoir la volonté, mais qui n'ont pas les moyens. Mmh. Et il est sûr que quand on est sur une petite commune, eh ben, la possibilité de proposer du périscolaire varié et de qualité n'est pas toujours possible parce qu'il n'y a pas les ressources, tout simplement. Donc ça, c'était une grosse problématique. Et voilà. Et ça, c'est, je pense, le rôle des fédérations de parents d'élèves, à la fois d'être vigilant et d'accompagner et de faire pression aussi auprès de l'institution et d'être relais des communes auprès de l'institution pour dire « Vous avez voulu quelque chose, maintenant il faut donner les moyens. » Alors pour 2014, pour la prochaine rentrée, il y aura des moyens qui vont être donnés puisque l'État garantit entre 50 et 90 euros pour les zones d'éducation prioritaire et pour certaines zones rurales et 50 euros pour toutes les communes d'accompagnement pour le périscolaire. Mais cette subvention n'est pas pérennisée.
Par élève, hein, c'est ça ?
Par élève, mmh. Oui. 50 euros par élève. Elle n'est pas pérennisée, elle n'est valable qu'un an. L'année suivante, on sera à 25 euros, on réduira. Et puis ensuite, il n'y aura plus de financement. Là, il y a un risque et nous, il faut qu'on soit vigilants. Il faut qu'on soit vigilants pour que, ce que je vous disais, les plans d'éducation territoriale, qui sont donc ces plans qui permettent de faire le lien entre l'enseignement et le périscolaire, soient des plans ambitieux et soient des vrais plans et pas simplement un faire-valoir. Enfin, voilà. Et là, c'est le rôle des parents. Et c'est ce rôle-là qu'on doit jouer. Quoi.
Alors concrètement, vous allez faire un certain nombre de réunions maintenant, des rencontres.
Alors concrètement, nous, la FCPE 26, on a décidé de mettre en place un observatoire qui sera donc composé de tous nos conseils locaux. Et donc nous allons demander à tous nos conseils locaux d'avoir un vrai suivi annuel de ce qui va être mis en place au niveau du périscolaire, de pourquoi le périscolaire fonctionne ou pourquoi il ne fonctionne pas, si c'est des problèmes de moyens, si c'est des problèmes de volonté. Et donc nous avons notre rôle en tant que fédération départementale, puisque nous sommes présents au conseil départemental de l'éducation nationale en présence du préfet et de la directrice académique, c'est de faire remonter ce qui ne fonctionne pas, ce qui fonctionne aussi. Et de faire aussi entre conseils locaux un partage pour justement ce qui fonctionne, et ben que ça puisse être un modèle pour les communes et pour les conseils locaux et pour les communes rurales aussi. Voilà, on va essayer, nous, d'être vigilants et d'avoir une vision un peu globale sur notre département dans la mise en place du périscolaire.
La FCPE 26, c'est quel poids au niveau des, combien de parents d'élèves? Vous savez quelle puissance vous avez?
Alors, on représente environ 3200 parents. Voilà, on est la première fédération de parents sur la Drôme. On est très présent sur le second degré, donc collège, lycée. On l'est un peu moins sur le premier degré.
Mais voilà. C'est bien, là, on n'a parlé que de ça.
Voilà, non, tout à fait. Et on espère aussi que ça sera un moyen de... Parce que là, je pense que sur des sujets comme ça, la nécessité de s'unir et de travailler en conseils locaux et en fédération est importante. Quoi. Parce qu'on a une vision qui est beaucoup plus globale que lorsqu'on est simplement dans son école.
Donc là, vous allez peut-être repartir un petit peu en campagne. Je sais que justement, dans les collèges, lycées, en général, on est approché, on reçoit le papier nous invitant à choisir l'un ou l'autre, l'une ou l'autre
les
des
bleus,
fédérations.
Les, rouges.
Les bleus ou les rouges, c'est vous qui l'avez dit. En tout cas, en primaire, c'est pas le cas.
Alors, normalement, en primaire, depuis qu'il y a un accord avec la MAE, donc les bulletins d'adhésion de la FCPE passent tous les ans. Alors souvent, ce n'est pas vu parce qu'ils ils croient que c'est la MAE, donc les parents le jettent. Mais au-delà de l'adhésion qui, effectivement, est nécessaire parce que c'est des moyens financiers pour nous, mais au-delà de ça, ce qui est archi important, c'est, parce qu'on n'est pas prestataire de services, hein, on est vraiment une fédération. C'est-à-dire que c'est aux parents de prendre leur école en main. Et donc nous, ce qu'on leur la seule chose qu'on peut leur dire, c'est parce qu'il y a des parents qui aujourd'hui sont délégués de parents autonomes dans les écoles primaires et dans les écoles maternelles, c'est la majorité des parents. C'est rapprochez-vous d'une fédération, vous aurez de l'information, vous aurez tous ces outils qu'on essaie de mettre en place, mais vous ne perdrez pas en autonomie parce qu'on n'est pas non plus un politburo. Et je sais que beaucoup de parents, notamment en premier degré, ont peur et se disent « Non, mais les fédérations de parents, quelles qu'elles soient, je ne parle pas que pour la FCPE, c'est politique. Moi, je n'ai vraiment pas l'impression de faire de la politique ou alors de la politique dans le sens grec du terme, quoi, oui. M'occuper de la cité. »
Mais, en tant que citoyen.
Voilà, en tant que citoyen. Mmh. Voilà, mais moi, je travaille avec un maire de droite et puis je travaille avec un maire de gauche aussi. Et je rencontre aussi bien l'un et l'autre. Et je peux vous dire que on s'engueule pas, mais j'ai des exigences nous avons des exigences qui sont tout aussi critiquées par certains maires de droite et autant par certains maires de gauche. Donc, ce qui prouve bien que... On est bien au milieu, quoi.
Enfin, de toute façon, on se gardera bien de dire vos propres convictions. Alors, on va terminer avec un peu de promo, justement. Où vous trouve-t-on? Alors, si c'est la Drôme, c'est sans doute à Valence. Comment peut-on entrer en contact avec vous si des auditeurs maintenant sont intéressés pour adhérer?
Alors, pour adhérer, déjà, ils peuvent se renseigner auprès, donc...
Normalement, leur école peut...
Voilà,
déjà...
c'est ça. Alors... Il peut exister dans les écoles un conseil local, collège, lycée. Hein. Sur 10, on a un conseil local au second degré qui fait à la fois le collège, lycée. Après, on peut aussi adhérer s'il n'y a pas de conseil local. Il y a là aussi, sur 10, on a des adhérents, mais qui ne sont... Il n'y a pas de conseil local, donc il y a un conseil local à prendre. Hein, c'est très simple. Il n'y a pas grand-chose. On se réunit et puis on parle des problèmes vraiment de l'école, de ce qui se passe dans votre école. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de... Voilà. Donc, c'est tout simple. Après, on peut effectivement se rapprocher donc, de la FCPE 26 en allant soit à Valence, soit en tapant dans Google FCPE 26. On tombera sur le site internet. Et à ce moment-là, on aura accès à... Et au bulletin d'adhésion, ce qui n'est pas là. Et puis, c'est surtout au numéro de téléphone, parce que je ne l'ai pas sur moi. Mais voilà, pour rentrer en contact.
On mettra les liens sur notre site. Et je pensais justement, on parlait de conseil local, il y a, en tout cas, pour la partie d'Oise, de la Drôme, il y a, et ça doit être valable un peu partout d'ailleurs, il y a un certain nombre d'écoles qui se sont rassemblées dans ce qu'on appelle des RPI ou des CIVOS.
Oui, tout à fait.
Et donc, il y a une espèce de conseil là, d'écoles, assez étendu, qui prend en compte la mairie, qui prend évidemment les instituteurs, et puis déjà des parents d'élèves hein, qui sont... Est-ce que la FCPE ou d'autres pourraient venir solliciter un petit peu ces conseils-là déjà pour passer à l'étape supérieure? Alors, sans vouloir faire de publicité pour vous.
Non, hein. Mais après, on peut être acteur et être un parent acteur sans être affilié à une fédération. Hein. On peut être autonome. Et donc, on peut participer au conseil d'école, donc classique, se faire élire. Pour être sur une liste, il faut être deux. Donc, c'est assez facile. Hein. Et on n'est pas obligé d'être affilié dans ce cas-là. Donc, moi, je fais de la pub maintenant pour les autonomes, à la limite. On n'est pas obligé d'être affilié à une fédération. On peut être acteur et c'est tout aussi respectable. Et donc, dans les RPI, on a effectivement la FCPE et sur certains RPI est représentée puisque les parents ont une liste au sein du conseil d'école, donc sont représentés. Mais donc, on peut être acteur sans être affilié. Moi, quand je suis arrivé, j'étais parent à Cré. Hein, mon gamin, il est rentré en petite section. Il y avait une réunion d'information FCPE. J'ai été voir. Voilà. Je suis rentré FCPE comme ça. J'aurais pu être autonome. J'avais de toute façon le désir de m'impliquer. Avec le recul, je m'aperçois que avec une fédération de parents, en l'occurrence celle-ci, mais il y en a une autre, on a beaucoup plus d'informations. On a beaucoup plus de retours et on peut poser une problématique locale et voir si elle se répète et voir comment elle est résolue ailleurs. Donc c'est s'ouvrir sur autre chose que son école, mais toujours avec l'intérêt de son école. On ne demande pas aux fédérations, aux adhérents de la FCPE, du collège, de résoudre des problèmes de lycée ou des problèmes. Mmh. Voilà. Si on a un désir de réfléchir sur la globalité de l'éducation, on peut le faire. Si on veut s'investir localement, on le fait. Par contre, on a de la formation. Avec le recul, je me suis dit et je me dis, ben, j'ai bien fait. Enfin, ils ont bien fait d'organiser ce jour-là une réunion et j'ai bien fait d'y aller parce que, en fait, j'y vois un intérêt. Voilà, j'y ai vu un intérêt d'information, de moyens qui sont démultipliés, de reconnaissance au niveau de l'institution. Ça, c'est évident parce que quand on est autonome, on n'est pas toujours bien considéré parce qu'on est qu'on ne représente que soi-même, alors que quand on est une fédération, quelle que soit cette fédération, on représente des parents et on représente, dans le cadre de la FCPE, des valeurs. Et ces valeurs, elles sont reconnues au niveau national.
Et c'est bien parce que vous êtes là qu'il est question de prêcher votre chapelle. Attention, il faut y aller. Et justement, ça rejoint ma question de départ, c'est que ces réunions d'information, vous avez peut-être eu le plaisir d'en avoir une à Cré. Je vais pas dire où mes enfants sont, mais en tout cas, nous, on n'a jamais eu ce type de... Voilà, dans les communes rurales, on n'a pas l'une ou l'autre des fédérations,
non,
en tout cas, qui se présentent pour venir proposer ce qu'elle peut faire.
Alors, voilà.
On est tous autonomes.
Oui, tout à fait. Et vous œuvrez tous, je veux dire, tous les parents œuvrent au bien-être de manière générale des élèves, parfois que de leurs enfants, ce qui est effectivement, on a une vision qui est de notre enfant et les enfants en général. Si vous n'êtes pas loin de Cré, bah, sachez qu'il y a une réunion d'information demain, donc on sera le 19 à 20h15 à la salle des Acacias. Après, nous, en tant que fédération, voilà, c'est ça aussi la force d'une fédération, c'est que, par exemple, tous nos conseils locaux ont reçu une lettre d'information pour sur les rythmes scolaires, avec toutes les informations pour transmettre aux adhérents, mais à tous les parents. C'est-à-dire qu'après, libre aux adhérents de la FCPE dans une école de faire des photocopies et de relier cette lettre d'information. On offre comme ça des outils à nos adhérents pour pouvoir relayer de l'information. Parce que je crois que le travail d'une fédération, dans un premier temps, c'est de créer du lien. Et que ce lien-là, entre l'institution et les parents, il ne peut se créer que lorsque les parents sont informés et que... Malheureusement, l'information, c'est pas l'institution qui la donne et que parfois les parents vont pas la chercher, donc il faut vraiment leur amener, quoi. Et c'est aussi un de nos rôles importants, à mes yeux, pour une fédération de parents, quoi.
Merci Jean-Claude Bondaz de nous avoir amené ces éclaircissements ici à la radio pour nos auditeurs. Je rappelle que vous êtes le actuel président de la FCPE 26.
Ouais.
Et nous allons terminer cet entretien en vous remerciant d'avoir fait cette présentation aussi sur les rythmes scolaires. Et je vous invite à revenir quand vous voulez pour la suite des combats.
Merci beaucoup.
Ce n'est qu'un un combat, continuons le début, voilà, c'est ce qu'on
dit. Absolument. Et puis pour être parent, il faut être persévérant. Ça, c'est une des qualités du parent.
Merci.
Au revoir.
Hey, the bird.
L'interview du jour.